Merci de rester avec nous dans Au cœur de l'islam.
Nous allons faire des émissions en direct. Et par extension, ou un musulman.
Est-ce qu'il faudra tirer ses références des savants de sa région ?
Nous sommes tenus d'être musulmans et non d'être des malékites. La connaissance est celle des anciens. Mimouna ta'arf Rabbi, Rabbi ya'arf Mimouna, Mimouna kent jahad. Mimouna n'était pas une traître.
Il est considéré comme le guide des musulmans, ce qui inclut le dernier monothéisme.
Vous avez des coranistes, c'est une secte. Vous avez les hadathiyin, les modernistes, qui visent à annuler tout ce corpus que nous appelons sunna mutahara sahiha. Le vrai croyant s'occupe de sa foi, le mauvais s'occupe de celle des autres.
C'est notre propos sur Alger Chien 3 depuis que l'on a commencé à disserter autour de tous les éléments qui constituent une bonne base pour la pratique claire et correcte de l'islam. Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger Chien 3 et sur la page x.com. Au cœur de l'islam, Chien 3.
Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Shekat et Bouchra Yahya.
Madame, monsieur, bonjour, salam, azul, marhaba bikoum sur les ondes positives de Au cœur de l'islam et sur notre page Au cœur de l'islam, chaîne 3 sur x.com. Nous enregistrons l'émission d'aujourd'hui dans une belle ambiance historico-culturelle très festive, bienfaisante et nécessaire pour la cohésion des Algériens et même plus car il s'agit du patrimoine millénaire de toute une région s'étendant des îles Canaries en Espagne jusqu'à l'oasis de Siwa en Égypte. Et s'étendant même à l'intérieur de l'Afrique, en Centrafrique. Et sachez que rien que ce facteur aurait dû nous unir ou unir tous nos pays. Et quand vous rajoutez à cela l'islam, le rêve est trop beau, mais ne se réalisera certainement jamais. Donc je vous dis, Younaïra Saadi Amervouh, même en retard, même après quelques jours. Salam alaikum Kamel Shekat.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Asgas Amervouh.
Allah yisselmak. Là, justement, puisque vous ouvrez le débat sur Younaïr, bon, alors, vous avez dit, ça va des îles Canaries jusqu'à
l'oasis de Siwa.
Ça va au-delà.
Ça va au-delà, oui.
Dans d'autres régions, on va connaître cela sous le nom, par exemple chez les Perses, c'était Nehruz.
Nehruz.
C'est l'année agraire. Ce qui est bien avec l'islam, c'est que dans ce que j'appelle l'équation juridique, c'est-à-dire les cinq vocations majeures avec les trois paliers de concrétisation, plus les cinq grandes règles du droit, dans les grandes règles du droit canon de l'islam, nous avons la cinquième règle qui est « al-adatu muhakkama ». Ça veut dire que la coutume fait autorité. Quand l'islam est arrivé à Médine, les Médinois avaient deux jours. On peut même les appeler, on peut même leur donner comme appellation des jours de carnaval, en quelque sorte. Les gens étaient dans une ambiance festive, ils s'habillaient d'une manière, on va dire, un peu plus ou moins extravagante. On se laissait aller à l'amusement. Et le messager de Dieu, alayhi salatu salam, a dit « Inna Allah qad abdalakum bihima khayram minhuma ». Dieu vous les a échangés par deux autres journées de fête qui sont meilleures. C'était Eid al-Fitr et Eid al-Adha. La nature humaine est ainsi faite. L'homme ne peut pas rester sur un niveau de rigidité ou bien de conformité rigide au culte qui pourrait rompre son équilibre humain, on va dire, sa biochimie, je ne sais pas comment appeler cela. Et c'est pourquoi Dieu subhanahu wa ta'ala leur a échangé des journées où il y avait une fête païenne par une fête qui avait plus de sens. Innaha ayyamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillah. C'est des jours de nourriture, de breuvage et d'évocation de Dieu. Et pour revenir sur Younaïr, que certains qualifient de fête païenne, à la base, oui, c'est une fête qui est connue dans le monde entier. C'est le calendrier agraire. Les gens sont heureux parce que c'est une nouvelle saison qui commence, c'est l'abondance qui va venir, etc. Et je me souviens, il y a quelques années, il y a eu tellement de débats à ce sujet que j'ai appelé Dr Bouizri. Je lui ai dit, écoutez, il n'y a pas plus indiqué que vous pour me donner des explications sur ce que vous faites dans votre région. Et quand il m'a bien expliqué, finalement, les musulmans ont su faire bon usage de cette coutume, de cette habitude. Et quand je dis l'adatu muhakkama, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé une fois à Sayyida Aisha et lui a dit, لولا ان قومك حديث عهد بالاسلام, si les tiens n'étaient pas nouveaux dans la religion, en islam, j'aurais démoli le Kaaba pour la reconstruire sur les bases d'Abraham, paix ouais. sur lui.
Parce qu'on a surélevé la porte de plus de 2 mètres.
Oui, mais même l'édifice, il a rétréci en quelque sorte, par faute de matériaux. Nous avons chez les grands savants de l'islam, par exemple, nous, vous voyez actuellement quand les gens rentrent dans une mosquée, ils vont généralement pour faire leur prière. Quand vous faites votre prière tout seul, il est bien ou il est plus indiqué d'aller vers ce que nous appelons en langue arabe sutra, c'est-à-dire mettre quelque chose dans sa qibla pour que les gens puissent passer.
Oui.
On va généralement vers un pilier dans la mosquée, on va le plus en avant possible pour ne pas gêner les gens qui voudraient passer. Parce que nous parlons de, comme on dit en arabe, c'est-à-dire tous les manqous l'ajr en quelque sorte. Et si quelqu'un passe, votre prière est tout à fait acceptée. Quand vous êtes dans une prière en congrégation, salat jama'a, si les gens passent entre les rangs, ça ne pose pas de problème parce que c'est l'imam, personne ne passe devant lui. Mais quand vous êtes seul, il est préférable que vous ayez quelque chose qui soit un peu avant vous, juste quelques centimètres après l'endroit où vous posez votre tête, pour permettre aux gens de passer.
Alors que la salat chez est verticale.
Les... Oui, mais chez les malékites, par exemple, ceci ne pose pas de problème, parce que même dans la position, même dans la posture même de la prière, on peut regarder droit devant soi, parce que c'est des appréciations des hadiths que nous avons. Et j'ai oublié qui est-ce, c'était un grand savant en tout cas, qui est arrivé dans une contrée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est entré dans la mosquée. وَوَضَعَ سُطْرَةً. Il a mis quelque chose pour pouvoir prier. Un autre grand savant l'a vu, il leur a dit, quand il terminera sa prière, ne sachant pas de qui il s'agissait, vous le prenez, vous allez le bastonner pour lui montrer qu'il... Parce que...
D'accord.
Pourquoi? Parce qu'il avait rompu...
C'était un semblant d'innovation.
Oui, il avait rompu une habitude. Et là, c'est un ikhtilaf, c'est une divergence d'opinion. La divergence, elle est acceptée. Il faut pas que la divergence nous mène vers la discorde. C'est ce qui n'est pas bon en religion. Et donc, je parle de tout cela pour montrer que cette idée d'habitude, l'ada, il faut la prendre en considération. Et à partir de là, même si quelqu'un est contre tout cela religieusement parlant, même si vous êtes d'avis qu'il s'agit là d'une fête païenne qu'il vaudrait mieux éviter.
Et c'est le cas actuellement.
Oui, mais attendez. Est-ce que pour un musulman qui est conscient de l'islam, là encore, je vous parle de mon propre sentiment religieux, comment je le ressens. Pour moi, le petit musulman, ça ne fait pas du tout partie des priorités actuelles que d'animer cette discorde au sujet d'un point qui a été réglé et qui n'a jamais posé de problème. Bien au contraire. Sur le plan social, cette fête de Yenayr, quand on était enfant, je me souviens, nous à la maison, on ne parlait pas de Yenayr, on disait la Djouza.
Ça veut dire,
chacun a son...
La mouchahata fil istilah.
La mouchahata fil istilah, comme vous dites. Le problème n'est pas dans l'appellation. Elle a toujours joué un rôle social qui était bénéfique pour ce pays.
Ouais.
À partir de là, quand on a un tant soit peu d'intelligence, et quand on est sur les traces des pieux prédécesseurs, Salaf Saleh, on laisse faire, tout simplement. Bien sûr, si vous venez me parler de la bûche de Noël, ou bien de Noël, ou même du Nouvel An, j'ai un autre avis, moi je suis contre. Ce sont des fêtes religieuses qui appartiennent à la chrétienté, pas plus ni moins. Sans
Donc,
oublier,
étrangères à
oui,
notre communauté, à notre
sans
culture.
Sans oublier qu'il y a derrière tout cela des origines païennes et presque sataniques. Sans parler de l'aspect commercial.
Du business.
Mais quand vous venez me parler du Nehruz, par exemple, qui était connu à l'époque des Sahaba et des Tabi'in, et qui ont laissé faire les choses, lisez « Iqtida al-Sirat al-Mustaqim » d'Ibn Taymiyyah, vous allez comprendre en quoi consiste tout cela, même si ce n'est pas une fête religieuse, et nous sommes d'accord sur sur la chose, ça n'a pas une connotation religieuse, ça nous poserait normalement aucun problème. Je ne suis pas là pour défendre Nayer ou bien pour, mais je voudrais juste dire à certains de nos frères et sœurs, ayez un peu de bon sens, et à l'heure actuelle, dans ce monde de division, dans ce monde où des puissances veulent défragmenter nos sociétés, allez à l'essentiel. Prenez en ligne de compte la priorité des priorités qui est « Innama al-mu'minuna ikhwa ». Tout simplement. Ça me rappelle, c'était Berdouan qui me racontait ça. Et il paraît que dans un endroit, il y a deux groupes qui se battaient, qui se chamaillaient à cause de la gestion d'une mosquée. Ils sont allés vers une personne douée de sagesse et de sciences religieuses. Ils sont venus, ils ont dit, voilà, Yachir, nous avons un problème dans la mosquée untel, et puis voilà, eux, ils veulent ça, nous voulons ça. Il a dit, attendez, on va régler le problème vite fait, bien fait. Qui détient les clés de la mosquée? Un vieux lui a dit, les voici. Il a dit, donne-les-moi. Il a pris, il leur a dit, allez, rentrez chez vous, ça y est, maintenant vous n'avez plus de problème. Vous n'allez plus vous battre entre vous. Vous comprenez? Cette cohésion des musulmans, dans un esprit clairvoyant, elle est plus importante qu'un lieu de culte, que quatre murs.
Kemal Chakat, la balkanisation des pays musulmans et des pays pauvres, ou tiers-monde 10, ou en voie de développement, continue de se faire. Alors, nous assistons malgré nous à la mise en exécution du grand échiquier de Brzezinski, des grandes théories de Bernard Lewis et d'Henry Kissinger.
Oui, absolument, les suprémacistes.
Et d'Henry Kissinger. Pourquoi ces traditions ancestrales, ce lien très important qui unit plus de 20 pays, une trentaine de pays, peut-être
minimum,
même plus,
oui.
Ce facteur qui est cette histoire commune de ces pays, ces traditions berbères ou amazighes, on ne sait plus quel mot utiliser avec toutes les hostilités qui nous entourent,
oui.
Ajouter à cela l'islam, Kamal Chakat, pourquoi ça n'a pas donné le bon effet? Pourquoi ça n'a pas cimenté ces pays? Pourquoi ça ne les a pas consolidés?
Pourquoi vous posez, pourquoi vous dites ça? Mais attendez, le problème...
Je parle de ce que je vois aujourd'hui,
oui,
je ne parle pas d'il y a des siècles.
Mais ce que vous voyez aujourd'hui est né avec à la fin de la grande période coloniale, quand ceux qui sont plus intelligents que nous ont compris qu'ils peuvent mener des guerres sans perte humaine, qu'ils peuvent mener des guerres sans tirer la moindre balle, ils ont commencé à travailler sur ce qui pouvait nous diviser, tout simplement. Et ils l'ont fait admirablement. Moi, je suis admiratif de ces gens-là qui viennent, qui avec des pseudo-penseurs, comme même si c'est des esprits aiguisés, c'est des esprits aiguisés, mais dans le mauvais sens, comme Bernard Lewis, Brzezinski, Fukuyama et j'en passe.
Ouais,
ces gens-là, ils viennent, ils pendent des paradigmes, et ceux qui, les grands lobbies sont là, oui, ça pourrait être intéressant, on va exploiter ça. Et ils mettent un peu de vent. Ils vont perdre peut-être 200, 300 millions de dollars, mais ils vont gagner derrière quelques trillions de dollars. C'est comme ça que ça marche. Et les nôtres, ils n'arrivent toujours pas à se rendre compte de cette supercherie. Ce ne sont pas vos détracteurs, vos ennemis qui sont plus intelligents que vous, qui ont plus de matière grise que vous, c'est vous qui êtes en train de consacrer la bêtise humaine.
Votre réaction a été, Kamal Chakat, votre réaction à ma question a été, pourquoi vous dites cela?
Oui.
Est-ce qu'il y a eu des moments dans l'histoire où ces deux facteurs ont fait que les nations soient grandes, fortes et souveraines?
L'Andalousie, vous savez, l'Andalousie, beaucoup de grands savants, surtout dans le domaine de la sociologie européenne, ont commencé à parler de la convivencia, convivir, vivre ensemble. Et ils ont dit l'Andalousie, c'était le modèle par excellence. Moi, je dis non, le modèle par excellence, ça a été Médine, ça a été Damas, ça a été Bagdad, ça a été partout où l'islam est entré. Les gens ont vécu sans le moindre problème dans un vivre ensemble incroyable et admirable. Les choses ont été rompues quand les Européens ont pris conscience de l'État-nation, de l'État-national, etc. Je ne sais pas si on peut appeler un État national, mais quand les nationalités ont commencé à se cristalliser, c'est là que les gens ont commencé. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en sorte que les pays arabes qui formaient un seul califat se mettent à chercher chacun les intérêts de sa propre nationalité.
Oui.
Attends, toi, tu es irakien, mais attends, tu n'as que faire de ce qui pourrait se produire pour les Syriens, pour les Maghrébins, pour les je ne sais qui.
On a trouvé le mot à cette chose, l'ethnicisation.
L'ethnicisation, le qawmiyat, comme on dit. Et donc, le problème est là. Le problème, c'est que quand je vous dis pourquoi vous parlez de cela, si vous consultez les livres d'histoire, est-ce qu'il y avait un problème chez les musulmans concernant, par exemple, cette fête de Yenayer, qui se fête depuis quelques millénaires? On va partir sur 1000 ans seulement. Est-ce qu'il y a eu un problème? Même quand vous étudiez l'histoire, je ne sais pas moi, l'histoire de la Perse, l'histoire, Tarikh Dimashq, et j'en passe, le Kamil fi Tarikh, etc. Partout, on vous parlera du Nérouz. On en parle comme un phénomène, une manifestation sociale qui a lieu une fois par an, qui concerne le calendrier agraire, qui était fêté, etc. Il n'y avait pas autant de dissertations là-dessus chez les premiers grands savants. Donc, c'est un problème qui n'existe que depuis, on va dire, un siècle peut-être. Le plus important pour moi est que moi, je suis pas historien. Je ne me donnerai jamais le droit de parler, de disserter sur des points qui sont sujets à un débat pratiquement interminable.
Ouais. Nous ne sommes pas des historiens, Kamashkat, mais la question mémorielle, oui. Tout le monde peut en parler.
Oui, et il faut aussi éviter une chose. Ouais. Quand quelqu'un dit quelque chose, quand bien même cela ne vous plairait pas, que son discours ne véhicule pas une intention de semer le trouble ou la discorde dans la société, mais en tout cas, pour revenir à tout récemment, il y a eu un problème sur la mazérité, etc.
Où ça, à quel niveau?
Ici en Algérie, avec le fameux historien Mohamed Belrit, moi je suis d'avis que ce genre de problème doit être discuté et débattu par des conseils savants et non par le pôle judiciaire. En tout cas, c'est la meilleure des solutions.
Pourquoi le pôle judiciaire a mis son grain de sel, Kamal Chakat?
Parce qu'on a...
Par rapport aux conséquences?
Par rapport beaucoup plus...
Par rapport à la loi contre la haine, Kamal Chakat?
Non, c'est beaucoup plus par rapport au contexte. Nous sommes dans un contexte géopolitique et stratégique qui est très, très délicat. Mm-hmm. Vous savez, il y a des moments où il faut savoir se taire, il faut savoir passer sous silence certaines questions, jusqu'à ce que le moment idoine se pointe pour pouvoir en parler. Parce que ce sont des choses ou des points qu'il faut débattre sans patient. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui même et concernant cette fameuse fête de Yenayer, j'ai tellement entendu, j'ai tellement lu à ce sujet, et puis nous sommes tombés dans ce que disait le messager de Dieu. Yaktoru al-qalamu wa yaqillu al-ilm. Ishara min isharat qurub sa'a. Tout le monde parle sur les réseaux sociaux, tout le monde écrit et chacun y va de son lot de venin qu'il va lâcher comme ça dans la société. Je suis désolé, mais moi ce sont des sujets en tout cas que je n'aborde qu'avec des gens que je connais bien et qui me connaissent bien. Parce que vous pouvez parler de certaines
pour
choses...
Pour éviter les débordements, Kamal Chakat?
Les malcompréhensions? Oui, les incompréhensions et les taxations. Parce que tout le monde va vous taxer. Ah, un tel, finalement, il fait partie de telle obédience. Alors que c'est faux. Ouais. Vous savez, la sagesse des premiers, c'était ça. Et ouais. On en a parlé tout récemment. Si vous voyez le nombre de divergences qui existaient chez les sahaba, ridwanullahi alayhim, vous seriez ahuris. Et ces mêmes divergences ont été à la base pratiquement du schisme de l'islam. Ils ont été à la base de la naissance des Khawarij, ils ont été à la base de la naissance du chiisme politique et des autres groupes dévoyés qu'a connu l'histoire de l'islam et des musulmans. Et pourtant, c'était des points qui sont passés sous silence ou mis sous silence par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que on regardait toujours vers l'essentiel. Tout ce qui pouvait être source de discorde, de choses malsaines pour la société, on l'évitait autant que faire se peut. C'est tout ce que nous pouvons conseiller à nos frères et sœurs, surtout dans ce pays qui est fortement visé, qu'on le veuille ou non, par des forces maléfiques.
Oui. Kamal Chakat, c'est certain que cette question reviendra chaque année.
Oui, bien sûr.
À chaque fois, ça revient, on ouvre le débat autour de la mazérité de 2 et 2. Alors, nous sommes un pays...
Ça ne concerne pas que les Amazirs, c'est ça le problème.
Justement, c'est une réalité, c'est du vécu, Kamal Chakat. Oui. L'Algérie est un pays très riche, avec ses différentes cultures, ses différentes couleurs, caractéristiques intrinsèques. L'intelligent serait de profiter de cette richesse.
À chaque fois que la diversité est citée dans le Coran, la mention finale c'est Inna fi dhalika la'ayatin liqawmin yatafakkarun. Inna fi dhalika la'ayatin lil'alimin, en parlant des langues et des couleurs de peau. Inna fi dhalika la'ayatin li'ulil albab. Donc attendez, si Dieu subhanahu wa ta'ala vous dit qu'il y a en cela des signes pour les doués d'intelligence, pour les savants, pour ceux qui réfléchissent, subhanallah, pourquoi venez-vous tout fermer? Ça rejoint cette idée qui était celle de d'Ibn Hazm al-Andalusi, l'icône du dahirisme, de l'école littéraliste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, Allah la yusalliyanna ahadakum al-asra illa fi bani Qurayda. C'est l'un des exemples phares en termes de divergence d'opinion. En cours de route, salat al-asr s'annonce, une partie dit, on va s'arrêter pour faire notre prière, l'autre leur dit, non, on ne fera la prière qu'une fois arrivé chez bani Qurayda. Le prophète a été clair. Les autres, ils leur disent, mais attendez. Il voulait tout simplement vous dire qu'il fallait faire diligence. C'est tout. Non. Nous obéissons aux ordres du prophète littéralement. Alors, un groupe va faire sa prière et l'autre était là à le regarder faire avec, dans un état de nervosité accrue. Le prophète, alayhi salam, ils sont tous arrivés après cela à Bani Qurayda. Le prophète, alayhi salam, arrive un peu en retard parce qu'il était en train de se lotionner, de prendre un bain après qu'il ait été encerclé pendant je ne sais combien de jours dans la fameuse bataille du fossé. D'ailleurs, Jibril est venu, il a dit « Ya Muhammad, wada'atum silaha fa inna wallahi ma wada'na. Ukhruj ilayhim. Sors. » Et c'est là que le messager de Dieu, quand il a pointé la tête hors de chez lui, il avait une partie, la partie droite qui était lotionnée et l'autre qui n'avait pas encore été touchée par l'eau. C'est là qu'on a la fameuse histoire du « Shaq al-Ayman il-Aysar » dans le ghusl, le lavage rituel. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, et tout le monde va vers lui. Ne vois-tu pas ce qui s'est passé au messager de Dieu? Voilà, ils n'ont pas obéi à tes ordres. Et les autres lui disaient, mais attends, ils n'ont pas compris tes ordres, ils sont bêtes ou je ne sais quoi. Bon, chacun est allé avec son argumentation. Qu'est-ce qu'il a fait, le messager de Dieu? Il les a écoutés parler, il s'est tu, il n'a fait aucun commentaire. Quelques siècles plus tard, Ibn Hazm al-Andalusi, pour donner du crédit à sa vision des textes, il a dit « لو كنت معهم لكنت مع الجماعة التي لم تصلي ». J'aurais fait partie de ces gens-là, j'aurais été du côté de ceux qui n'avaient pas fait la prière de l'Asr. C'est un littéraliste, Dahiri. Ouais. Il prend le texte au pied de la lettre. Quand vous voyez maintenant un petit hurlu-berlu qui a été éjecté de l'école au primaire, qui vous dit « لو كنت معهم لكنت مع الجماعة التي لم تصلي » parce que ses maîtres dans les pays du Golfe sont dans cette logique. Il n'y a pas d'allégorie dans le Coran, la majaza fil Coran, نأخذ بحرفية النص, nous partons à partir de la lettre du texte et non de son esprit. Je suis désolé, mon petit. Là, c'est Ibn Hazm al-Andalusi qui parle. Toi, qui es-tu? أنت نكرة في دنيا الناس صفر على الشمال tu ne vaux rien loka ibn loka comme vous le dites. Et c'est là le problème. Là, donc vous avez une divergence. Comment se fait-il que sur des points même par moment doctrinaux, le messager de Dieu alayhi salatu wasalam s'est tu et n'a fait aucun commentaire? Et là, 14 siècles plus tard, près de 15 siècles, vous avez des gens qui en font des thèses de doctorat. Mais attends, soyons sérieux. Pourquoi n'avons-nous pas cette hauteur? Je vous mets au défi. Étudiez séparément des pays comme l'Italie, la France et l'Espagne. Vous serez ahuris par le nombre d'ethnies
multiethniques,
et de langues qui forment ces pays.
Mais
et en dépit de cela, quiconque touche à l'unité et l'intégrité nationale de l'un de ces pays, on lui coupe la langue, les mains, on lui crève les yeux et les tympans. Et là, vous avez des gens qui crient comme ça à je ne sais quoi et qui sont fortement soutenus par les ennemis d'hier et d'aujourd'hui. Ouais. Et vous n'arrivez pas à vous rendre compte que voilà, il y a un problème. Non mais soyons sérieux. C'est pour ça que nous avons des règles qui sont un peu plus claires. Nous avons un Coran qui nous dessine le chemin, la voie à prendre dans cette vie d'ici-bas, qui nous parle de divergence, qui nous parle de discorde, qui nous parle d'unité, qui nous parle de tout cela. Et il y a à peine 70 ans, les deux générations qui nous ont précédés n'étaient pas dans ce type de problème, alors qu'ils étaient mille fois moins instruits que nous, que le dernier d'entre nous. Pourquoi ne sont-ils pas tombés dans ce piège? Et pourquoi arrivons-nous actuellement à rester empêtrés dans cette mouise, dans cette boue? Donc, il y a des axes que vous voulez que je vous dise.
Pour conclure ce premier chapitre de l'émission, les racines culturelles de notre pays et l'islam ne s'opposent pas.
Pas du tout.
C'est un leg civilisationnel, historico-culturel.
Oui.
Comment tirer profit, Kamel Chekat, de tout cela et l'allier à l'islam face à ce que nous vivons aujourd'hui? Est-ce que ça pourra constituer un rempart contre tous les dangers qui viennent de l'extérieur?
Bien sûr, ça ne peut que constituer un rempart.
Si nous en prenions conscience.
Oui, dès lors, vous avez une habitude ou une coutume qui ne s'oppose pas au fondement même de la foi musulmane. Le problème ne se pose plus. N'allez pas chercher dans des...
Les poux dans une tête propre.
C'est ça, tout simplement. Tout récemment, j'ai reçu une vidéo qui parle de, voilà, d'accouche, voilà, c'est ainsi que les Mozabites parlent de Dieu, ça, c'est le Coran berbérisé de je ne sais quoi, et voilà, ça a un rapport avec le judaïsme. Et attendez, il y a une multitude de voix qui sont en train de s'élever un peu partout pour semer la division et le chaos, ici même en Algérie. Et c'est des Algériens qui jouent les caisses de résonance. Je suis désolé.
J'appartiens à une famille profondément ancrée dans son histoire et dans sa culture. Une famille où les anciens disaient « Sider B » ou
oui.
« Je vais Hnenvi ». Il n'y a ni accouche, ni ceci, ni cela.
Non, mais même à Youch ou à Kouz, j'ai oublié. J'ai appelé d'ailleurs docteur Tahakouzi, je lui ai envoyé la vidéo en question. J'ai dit, d'accord, voilà, il y a des gens qui sont en train de jouer sur un certain nombre de... C'est à Kouz. Il m'a expliqué que, à la fin, c'est vrai, quand ils lisent le Coran, ils disent à Youch ou à Kouz, j'ai oublié.
Et c'est un terme ça, qui se rapproche de l'hébreu?
Non, rien du tout. Ça signifie l'ati. Il y a Amin, il y a l'Ati, Amin à Kouch ou Amin à Youch. Et puis nous, chez nous, quand comme les... D'ailleurs, lui, il pensait que j'étais capi. Il m'a dit, comme vous, vous dites ou quelque chose comme ça. J'ai dit, non, mais même là, bon, j'ai compris le sens, mais je suis pas kabyle. Il m'a dit, non, mais Mouhim, c'est comme ça que nous disons, et voilà ce que ça veut dire. Et il m'a donné même les racines du mot, etc., parce que c'est quelqu'un de parfaitement lettré. D'ailleurs, c'est le président... directeur général d'une université privée ici en Algérie. On appelle ça le HIS, c'est High Institute of Sciences. Et donc, il y a des
voix... Mais dans le contenu que vous m'avez montré, Kamel Chekat, on essayait coûte que coûte d'établir une connexion
entre le judaïsme, le sionisme et l'ibadisme. Il y a d'autres voix qui sont en train de travailler sur la même chose, mais en faisant entrer en action les Kabyles, les Berbères. D'autres sont en train de jouer sur certaines ethnies arabes, disant que voilà, elles sont d'origine juive. Et le problème, c'est que si vous creusez bien, vous allez vous rendre compte que ce sont des Juifs qui sont en train de faire ce travail. Parce qu'ils connaissent nos points faibles, ils savent que voilà, si tu veux semer la discorde entre les Algériens, essentiellement les Algériens,
surtout,
il faut tout simplement... Oui, nous sommes le seul pays au monde où quand on s'insulte, on dit à l'autre, à son détracteur, à son vis-à-vis, à son ennemi, il y a les Houdis.
Ouais.
C'est une forme d'insulte. Ils jouent sur ça. C'est une fibre très très sensible sur laquelle ceux qui vous veulent du mal sont en train de jouer.
Alors, meilleur moyen d'être immunisé, Kamel Chekat, c'est de connaître son histoire.
Bien sûr.
De connaître son passé.
Connaître son histoire et la connaître sans passion, c'est de l'histoire. D'ailleurs, nous l'avons déjà dit dans cette émission.
L'étudier comme une matière.
Oui, même l'histoire religieuse, elle n'est pas sacrée. Il faut la désacraliser. Nous avons déjà eu à parler de la crise qu'il y a eu entre Muawiya et Ali ibn Abi Talib. Je suis désolé, moi.
Non.
Je suis pour Ali ibn Abi Talib. J'aime plus Ali ibn Abi Talib que Muawiya. Et quand je parle des deux, je dis radiyallahu anhuma. Mais voilà, bon, je pense que Muawiya vraiment a opéré un tournant qui a été plus que catastrophique, carrément suicidaire, meurtrier dans l'histoire de l'islam. Il a fondamentalement travesti la religion musulmane. Ça reste un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ma vision des choses, elle m'appartient, mon avis est déjà fait, je ne vais peut-être jamais le changer. Et je n'ai même pas besoin de réfléchir à le changer ou à essayer de trouver un compromis, parce que c'est de l'histoire. Je l'étudie en étant conscient que ce sont là des faits historiques émanant de personnes physique ou d'entité humaine passible de faire des erreurs, et puis ça s'arrête là. C'est tout.
Vous avez évoqué Benou Omeya Kamal Chekat. J'ai su récemment que Soufiani, qui sortira à la fin des temps, qui sera à la tête des troupes belligérantes qui s'opposeraient à Al-Mahdi, sortirait des Benou Omeya. Serait un descendant des Benou Omeya.
Possible. Les Beni Omeya n'ont-ils pas donné naissance à Omar ibn Abdelaziz?
Au bon comme au mauvais.
Othman ibn Affan faisait partie des Bani Umayya. Et donc, où est le problème?
Alors, c'est de là que sont venues ces misères.
Oui, c'est à partir de là, justement. Partir du fait qu'il ait choisi, peut-être parce qu'il leur faisait confiance, plus qu'à d'autres, tout simplement. Mais il a fait une erreur. Mais Othman ibn Affan reste un être humain. Et c'est ça, lisez l'histoire. Est-ce qu'on va étudier l'histoire en la rendant sacrée et à partir de là, tout ce qui a été fait va être placé dans une sphère qui nous interdit d'émettre un avis ou non, ça n'est pas du tout le cas. Et même le Coran, quand il nous parle des peuples révolus, remarquez, c'est étudié dans la logique même de ce que certains appellent la méthode historique. On vous donne un fait avéré, et on essaye de tirer les conséquences plus tard. Il y a des orientations coraniques, et puis à vous de faire valoir votre intelligence.
Et puis on prend des exemples aussi, Kamel Chekat, des périodes de notre histoire. Pour ceux qui veulent semer aujourd'hui la haine et l'exclusion et diviser ce peuple, je tire mes références et mes exemples des Nomoudjahidine et des Shuhada. Quand ils ont choisi une Algérie unie et c'est pour ça qu'ils se sont sacrifiés.
C'est tout.
Faisons autant, tout simplement. Nous sommes le 27 Rajab 1447, bientôt un nouveau mois va poindre, un mois très important dans le parcours spirituel de chacun de nous, si nous nous considérons musulmans bien sûr. Mais faisons d'abord un focus aujourd'hui sur cette date fondatrice de l'islam, Dhikra al-Isra wal-Mi'raj. Et avant d'aborder ce qui s'est passé durant cette journée, ou plutôt cette nuit-là, et pourquoi on continue d'en parler, je voudrais commencer par un hadith du prophète alayhi salam. Certains voudraient nous dire certainement pourquoi pas un verset du Coran, mais comme on l'a rappelé dans une de nos émissions, Dieu subhanahu dans Surat Al-Imran, le verset 32, avait bien dit Ati'u Allah wa Rasul fa in tawallaytum fa inna Allah la yuhibbul kafirin.
Absolument.
Donc on insiste sur le message du prophète alayhi salatu wasalam qui a dit justement idha tabayatum bil aynati wattaba'tum adnab al baqar wa taraktum al jihad sallata Allah alaykum dullan la yarfa'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Kamal Chekat, aujourd'hui nous parlons de l'Isra wal Mi'raj, nous avons cette réalité, cet état terrible dans lequel se morfondent les musulmans et les arabes. Pourquoi continuer de parler de l'Isra wal-Mi'raj? Le message aujourd'hui est caduc et vain.
Écoutez, l'Isra wal-Mi'raj intervient à un moment, on va dire, crucial de la vie même du prophète, pas uniquement de la religion. C'est comme un don ou quelque chose qui avait pour vocation de raffermir la foi du messager de Dieu, alayhi salatu wassalam. L'Isra wal-Mi'raj intervient après la mort de son oncle.
Mais surtout
de Khadija, radiyallahu anha. Le premier était un bouclier. Khadija était un habit, carrément, qui donnait au messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, toute la quiétude dont il avait besoin. Ensuite, n'oublions pas que c'était la période aussi où les musulmans étaient isolés, mis en quarantaine dans les faubourgs de la Mecque. Et là, le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, entreprend d'aller proposer l'islam aux gens de Taif, espérant pouvoir conclure un pacte avec eux qui lui donnerait un peu plus de force, vu l'état de faiblesse dans lequel se trouvaient les musulmans de l'époque. Et là, comme tout le monde le sait, les choses vont très très mal se passer.
Avec Shayba et Shayba.
Oui. Jusqu'à ce qu'il aille justement dans ce vignoble appartenant à deux des fils de Rabi'a, Shiba et Shayba. C'est là que, pris de compassion, ils vont envoyer leur serviteur à Hadas vers lui pour lui donner une grappe de raisin. Et au moment même où, normalement nous avons déjà parlé de cela, au moment même où le messager de Dieu, alayhi salatu salam, allait commencer à manger, il a dit « Bismillah » au nom de Dieu. Et à Hadas, qui était chrétien, un chrétien de Ninive, donc d'Irak,
Neinawa,
il lui dit « Hada kalamun la ta'arifuhu ahlu hadihi al-bilad » Les gens d'ici, de cette contrée, ne connaissent pas ces paroles. Et là, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, lui dit « D'où es-tu, toi ?» Il dit « De Ninive. »« Ah, tu viens de cette contrée où habitait cet homme vertueux qui était Jonas, Younus ibn Matta. » Et il lui dit « Oui, mais comment connais-tu Jonas ?» Il dit « Daka akhi, kana nabiyan, wa ana nabi. » C'est mon frère. Il était prophète et je suis prophète. Et donc, c'est dans cet état de faiblesse, de tristesse, que le messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, va recevoir ce don de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Notons avant même avant d'arriver justement à ce don, après avoir subi ce qu'il avait subi des gens de Taif, Dieu, subhanahu wa ta'ala, selon ce que nous dit la tradition, a envoyé l'ange des montagnes, qui lui a dit, si tu veux, je fais abattre sur eux les deux montagnes.
L'Arshabayn.
Il dit, non, je préfère plutôt que Dieu sorte de leur sein, des gens qu'il adorerait sans lui associer qui que ce soit. Et ce qui est bien, c'est que cette supplique ou cette prière du messager de Dieu, alayhi salatu salam, quand il y a eu la vague d'apostasie qu'a connue cette partie du monde après la mort du messager de Dieu, alayhi salatu salam, les gens de Taif, Tabatou, qui sont restés sur la bonne trajectoire. Et donc, c'est dans ces conditions-là qu'intervient les Salah ul-Mi'raj.
Le deuxième soutien, Kamal Shkat, ou le deuxième encouragement, ou la deuxième consécration pour le prophète, alayhi salatu wasalam, s'est déroulé avant le retour à la Mecque déjà, dans Wadi al-Jinn.
Oui.
La conversion des djinns.
La conversion des djinns, oui. C'est-à-dire que toutes les entités, toutes les créatures de Dieu allaient reconnaître ce message. Et là, quand on parle de cette histoire des démons, des djinns, qu'on va retrouver essentiellement dans le Coran, les faits mentions de djinns qui ont écouté cette parole divine qui était le Coran, ils n'ont pas cité Jésus, alayhi salam, parce que comme nous l'avons déjà expliqué dans une émission, Jésus, à sa naissance, autant lui que Maryam, alayhi salam, ni Marie, ni Jésus, alayhi salam, ne figurait dans les casiers judiciaires des djinns, comme dirait l'autre.
Absolument, Kamal Shakat, ce que d'aucun homme, l'Immaculée Conception.
Oui. Cette délégation qui est venue à sa rencontre, qu'est-ce qu'ils ont dit? Si vous lisez dans Sourate al-Jinn, c'est les djinns qui parlent. Qulu hiya ilayka anna ustama'na forum min al-jinn, fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa amna bihi wa lan nushrika bi rabbina ahada. Vous trouverez dans Sourate al-Ahqaf un autre verset qui est très très significatif, là où ils disent قالوا يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. Ils ont occulté Isa alayhi salam. La tradition islamique nous dit que Isa alayhi salam n'a pas pleuré à sa naissance. Et la tradition islamique nous apprend que quand un bébé naît, la première chose qu'il fait, il va crier, il va pleurer. Parce que pourquoi? Parce que le diable vient, on va dire, le piquer. C'est ce qui fait pleurer les bébés à leur naissance, selon la tradition islamique.
Ou bien le serrer maintenant, fortement, certains compagnons.
Donc c'est si Jésus, alayhi salam, est occulté ici par les djinns, ça veut dire que dans leur banque de données, ils n'avaient pas du tout connaissance de son existence. Les djinns n'avaient pas connaissance de cette entité qui était Jésus, alayhi salam, et qui est venu au monde par un miracle. Donc le messager de Dieu, alayhi salam, va recevoir ce cadeau divin après une succession d'épreuves. Et l'intérêt aujourd'hui d'étudier les Salah ul-Mi'raj est plus que capital dans la mesure où nous sommes justement dans des épreuves. Et qui d'entre nous pourrait faire face à toutes ces épreuves et garder une foi optimale si ce n'est celui qui va revenir puiser dans cette histoire tous les enseignements que devrait puiser un bon musulman de cette histoire qui est les Salah ul-Mi'raj? les seuls actuellement qui ont vraiment été à la hauteur de ce qui a été accompli par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons à cette époque-là même, dont nous sommes en train de parler, c'est les habitants de Gaza, c'est les Palestiniens, qui en dépit de tout, restent fidèles à cet engagement pris avec Dieu. La semaine dernière, il y a plus de 500 jeunes qui ont terminé de mémoriser le Coran. Il y a eu une célébration de tout cela au beau milieu de cette désolation causée par l'inhumanité de ceux qui ne cessent de nous donner des leçons d'humanité. En premier lieu, les Américains, les Anglo-Saxons, les Européens, tous ces bien-pensants comme ils se prétendent être. Donc, l'Isra ou le Mi'raj, ça n'est pas du folklore. C'est un fait de l'histoire. Quand le Coran nous parle de ces faits qui se sont déroulés, ce sont des faits avérés historiquement. Donc, il faut les prendre comme ça. Ensuite, il faut tirer les bons enseignements de tout ce qui nous a été transmis, justement, dans le Coran.
Très bien. Alors, tous ces hadiths Kamal Shekat avec ce qui s'est passé au prophète alayhi salam, est-ce que les leçons de l'Isra ou le Mi'raj sont à méditer durant cette période de vie du prophète alayhi salam ou bien ça nous sert à nous aussi aujourd'hui?
Absolument.
Vous avez parlé du cas de Gaza, mais qu'en est-il des autres musulmans, de ceux qui se sont alliés justement à ces judéo-chrétiens?
Oui.
Qu'ont-ils puisé de ces messages, de ces leçons ou de cet événement?
Absolument rien. Un traître, c'est de l'ignorance pure dans la mesure où les traîtres ont toujours mal fini, ils ont toujours payé leur traîtrise, autant avec les leurs qu'avec les ennemis avec lesquels ils ont pactisé. Ça a toujours été démontré à travers l'histoire. Maintenant, revenons aux musulmans, à ceux qui se disent musulmans, à nous-mêmes qui prétendons être des musulmans. Nous ne cessons d'être acculés, d'être minés par tout ce qui se passe dans le monde musulman à travers une multitude de tragédies. Les 30 ou 40 dernières années ont été terribles pour nous les musulmans. Les guerres, des États qui tombent, des populations qui souffrent. L'Occident, quand il ne prend pas une position franche aux côtés du mal, il fait semblant d'être du côté du bien, mais il fait du mal en douce. C'est ça le problème. Et donc, d'où puiser une certaine force, si ce n'est à travers ces récits que nous relate le Coran, ou bien ce que nous appelons en langue arabe « Sirat al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam », qui nous montre que quand on fait preuve d'endurance, de patience, d'abnégation, et quand on reste fidèle au bon principe, on arrive toujours à s'en sortir.
Mais c'est difficile, Kamal Shekat, de maintenir sa foi à son plus haut degré.
Bien sûr que c'est difficile. Maintenant, il y a un choix à faire. Vous le faites et ça s'arrête là. Dans l'au-delà, il y a un enfer et un paradis. Vous vous mettez dans ce monde du côté de Dieu, vous irez au paradis. Vous vous mettez du côté du mal et de l'injustice, vous irez en enfer. Mmh. Point barre.
Assez souvent, on parle, Kamal Shekat, de ces hadiths eschatologiques et de toutes les épreuves prédites par le prophète alayhi salatu wasalam. Et au fond de nous, on est, par chauvinisme ou je ne sais quoi, on est presque sûr d'être à la hauteur à ce moment-là. Mais imaginez, dès qu'une petite épreuve nous accable, on est faible, on est atterré, on est fier de voir l'attitude des Palestiniens, mais on ne sait pas si on pourra faire autant ou pas.
Tout notre problème est là,
et
justement.
Donc,
écoutez, quand vous voyez quelqu'un consommer une boisson et qu'il sait pertinemment que cette boisson, que cette marque est en train d'activer, est en train d'intervenir activement dans une aide effective, prouvée,
tangible, avérée
de l'armée génocidaire sioniste, c'est terrible. Vous entrez dans un fast-food ou dans un restaurant, vous voyez des gens commander des boissons qui sont en train d'aider activement les génocidaires sionistes. Mais alors sans rougir. Et là, la personne, elle vous dit « Oui, mais c'est pas avec cette petite bouteille que ces gens-là vont gagner une guerre. » Oui, c'est pas avec ta petite bouteille. C'est avec des millions de petites bouteilles comme la tienne que ces gens-là sont en train de se faire aider. Une fois, je me souviens, c'était un prêche dans une mosquée où le prédicateur a dit « Écoutez, à quoi vous attendez-vous ? à ce que vous vous réveillez un jour et que, qu'en ouvrant votre poste télé, vous voyez dans les informations « Alléluia » ou bien « Eureka », c'est bon, la Palestine, elle est libérée, comme ça, du jour au lendemain, par un miracle. Dieu ne fait intervenir les miracles que pour des gens qui ont tout fait, qui ont tout épuisé. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'ont pas encore compris que cette religion qui est la nôtre est une religion qui vise à arriver à ce qui est beau, bon et bien par l'intervention de l'homme, pas par l'intervention de Dieu, subhanahu wa ta'ala.
Vous pensez à quoi, Kamal Shekat, le djihad ?
Bien sûr. Vous savez, cette notion du djihad, d'ailleurs, très prochainement, je vais sortir un livre qui s'intitule « La guerre dans les textes sacrés ».
Enfin.
C'est la seule chose qui puisse nous garantir une pérennité, le sens du djihad. Nous parlons du djihad de Amir Roj et avant lui de l'Amir Abd al-Qadir, Boubarla, Bouamama, Al-Muqrani, Cheikh al-Haddad et j'en passe, la Fatma Soumer. Je ne vous parle pas du djihad du Moudja ou de Daesh et j'en passe. Ça, ce ne sont pas des Moudjahidines. Ça, ce sont des traîtres qui travaillaient pour...
Qui travaillent, qui continuent. Hein.
Bien sûr. Mais qui travaillent pour l'Occident judéo-chrétien. Maintenant, c'est bon, avec tous les dossiers déclassifiés, nous avons plus que des preuves concernant cela. Même que les combattants de Daesh qui étaient blessés lors de la tragédie de la Syrie, ils se faisaient soigner dans les hôpitaux sionistes du Golan. C'est tout ça qu'il va falloir prendre en considération. Oui, l'Isra ou le Mi'raj, c'est donc une partie de l'histoire qui s'est écoulée, qui s'est bien terminée pour ceux qui portaient l'étendard de l'islam à l'époque. Maintenant, comment profiter justement des enseignements de l'Isra ou le Mi'raj ?
Alors Kamal Shekat, pour terminer avec cette émission autour de l'Isra ou le Mi'raj, ce qu'on devrait peut-être retenir, c'est l'importance de la prière. D'abord, oui. Le prophète alayhi salatu wasalam a mené cette prière avec tous ses frères prophètes et messagers.
Absolument.
Dès son arrivée à Jérusalem. Et puis, la prière a été instituée du haut de sept cieux pour tous les musulmans.
Absolument.
C'est le meilleur moyen de garder cette connexion avec Dieu subhanahu. Et c'est ce qui nous sauvera à la fin des temps.
Normalement, si cette prière venait à être accomplie comme il se devait.
D'accord.
Bah parce que attention, inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar.
Oui.
Maintenant
et puis
et aussi wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Donc le message est clair. La voie de Dieu est une voie pavée d'embûches, d'épines, d'obstacles. C'est une voie minée. Si vous voulez le bonheur éternel après la résurrection, il va falloir supporter tout cela. C'est le message qui a été donné au messager de Dieu, alayhi salatu wasalam, lors de cette fameuse histoire de l'Isra ou le Mi'raj. Et puis, dans l'Isra ou le Mi'raj, il est un peu plus clair que nous ne parlons que d'une seule et même religion depuis Adam, alayhi salam, jusqu'à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les hommes qui ont tout dévoyé, qui ont tout faussé. Et donc, dans l'état actuel des choses, dans cette faiblesse qui nous caractérise, nous les musulmans actuellement, c'est tout ce qu'il va falloir retenir. Il y a un choix à faire. Faites-le, puis ça s'arrête là. Mais nous, ce que nous demandons aux gens, si vous faites le mauvais choix, au moins... Ayez au moins la décence de ne pas tenter de l'argumenter par un semblant d'islam, par une fausse religion que vous en forgez des spécialistes justement en prostitution religieuse qui se réclament de l'islam, tout comme ce prêtre que vous venez d'entendre se réclame de la religion de Jésus. Wa Isa minhu bara.
Alayhi salam wa ala umhi salam. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين. Kamal Shekat, s'agripper donc à la salat et au Coran. Je rencontre ces derniers temps beaucoup de d'imams, de savants qui conseillent aux gens de lire tous les jours sourate l'Isra.
Pas nécessairement. Vous savez, vous pouvez lire, je ne sais pas moi, قل هو الله أحد.
Trois fois,
100 fois, autant de fois que vous le voulez. Vous pouvez lire
pour cumuler beaucoup de hasanat.
N'importe quel verset du Coran. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. C'est une parole divine. Lisez cette seule et unique parole. Qur'an yudzi'u ba'dahu ba'dan. Le Coran, les versets sont équivalents les uns des autres. Lisez un verset coranique en y mettant le cœur vaut mieux que de lire, je sais pas moi, le Coran tout entier avec un cœur vide. Ça rejoint cette anecdote d'un homme, d'un érudit, selon toute vraisemblance, à qui l'on a amené un enfant atteint d'un mal qu'on pensait être de Satan. Il a lu sourate Al-Fatiha cette fois. Il ne s'est rien produit. Il a dit, mais Omar ibn Khattab, c'est ce qu'a fait Omar ibn Khattab. Et ouais. Quelqu'un lui a dit, walakin ayna qalbu Omar? Où est ouais. Le cœur d'Omar? La majorité de nos grands-mères étaient des illettrés multidimensionnels, de parfaites illettrées. Et pourtant, le peu de Coran qu'elles connaissaient, elles arrivaient à plier avec ou à rompre avec des montagnes.
Regardez les générations qu'elles ont éduquées.
C'est tout simplement.
Kamashika, tu termines avec cette sentence de Hassan Basri, rahimahullah. Il dit, لا يغرنك قول يحشر المرء مع من أحب فإن اليهود والنصارى يحبون أنبياءهم وليس معهم ولكن اعمل بعملهم تحشر معهم.
Tout simplement.
Nous arrivons au terme de cette émission d'aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué que nous n'avons pas évoqué les détails des voyages nocturnes et célestes. Est-ce que le voyage s'est fait corps et âme? Qu'il a cru au sein de sa communauté ou de la communauté primordiale de Sidi Mohammed alayhi salatu wasalam? Ce que le prophète alayhi salatu wasalam a trouvé ou les gens qu'il a rencontrés au niveau de chaque ciel ou encore cette fameuse rencontre avec Dieu subhanahu, est-ce qu'elle est réelle ou il a juste entendu la voix de Dieu subhanahu?
Nous y consacrerons une émission, mais bon, déjà comme ça d'entrée de jeu, Sachez, parce que nous allons devoir répondre ici à ce que j'appelle maintenant les Corano Brutus. Il y a divergence au sein de la communauté théologienne au sujet de ce voyage. Était-ce un voyage virtuel ou est-ce qu'il s'est fait par le corps?
Oui.
Nous y répondrons, mais ce qui est très intéressant chez les fuqaha, comme dirait l'autre, c'est que ils se sont posé cette question. Ils ont divergé à ce sujet, mais ils sont restés braqués sur l'essentiel, à savoir raffermir leur foi par les enseignements spirituel de cet épisode qui est l'Isra ou le Mi'raj.
Mais en attendant, Kamel Chakat, je renvoie nos amis auditeurs à nos précédentes émissions que je mettrai en ligne de nouveau. Ils pourront s'en inspirer et s'en informer en attendant de revenir sur cette question. Et peut-être même qu'on aura la chance d'avoir quelques retours et quelques questions de nos amis auditeurs.
Inch'Allah.
Merci beaucoup à vous.
Je vous en
et
prie.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Mubarak alaykoum had dekra, Kamel Chakat, ou...
Ce n'est pas une fête religieuse.
Oui, mais beaucoup de gens feront le jeûne aujourd'hui ou seront saïmin.
Oui, ce n'est pas non plus une tradition, mais bon, si vous le faites, c'est le mois de Rajab est un mois sacré où le jeûne est normalement est recommandé durant tout le mois.
Selon l'imam al-Baqir, je crois, ou Jafar Sadiq, il avait dit que jeûner les derniers jours de Rajab pourrait nous préserver du feu de la géhenne.
De toute manière, jeûner tout au long de l'année pourrait vous préserver des feux de la
géhenne. Merci beaucoup, merci d'avoir été des nôtres. À vendredi prochain et n'oubliez pas de faire un tour sur notre page sur x.com au cœur de l'islam, chaîne 3. Au revoir.